Shieldcast présente la revue de presse thème du jour Longévité et santé avec Elena et Victor. Bonne écoute. Aujourd'hui, quatre papiers sur la longévité. Et honnêtement, il y en a un qui m'a fait lever un sourcil. Une équipe chinoise dans Nature Communications propose que le calcium intracellulaire soit un moteur du vieillissement. Et il rallonge la vie de souris progéroïdes de 30% avec un vieil antidépresseur, la miancérine.
30%, c'est le chiffre qui accroche. Mais ce sont des souris progéroïdes, donc modèle de vieillissement accéléré. Pas vieillissement normal, c'est bien ça?
Exactement, et c'est la nuance clé. Le modèle HGPS, c'est Hutchinson-Gilford, une maladie génétique très particulière. Prolonger la vie d'une souris progéroïde, c'est souvent plus proche de corriger un défaut que de ralentir le vieillissement. Ceci dit, la mécanique qu'ils décrivent est jolie. Fuite de calcium du réticulum endoplasmique via le canal IP3R, ça active une protéine S100A6 qui dégrade PARP1, qui est centrale pour la réparation de l'ADN. Boucle inflammatoire via Cegasting derrière. C'est cohérent, bout à bout.
Et la miancérine, c'est un médicament qui existe depuis longtemps, déjà prescrit, donc profil de sécurité connu. Ça, en pratique, c'est ce qui change tout. Si demain, quelqu'un veut lancer un essai chez l'humain, le coût d'entrée est faible.
Faible, oui, mais je t'en perds. Il montre aussi que S100A6 est élevé dans le vieillissement naturel, mais l'effet lifespan à 30% concerne les souris malades. Ce qu'il faudrait, c'est la même expérience sur souris wild-type âgées, avec échantillons décents et réplication indépendante. Là, on aurait un vrai signal.
Reprofilage d'un médicament connu contre le vieillissement, ça fait quand même partie des pistes qui, si elles marchent même modestement à l'échelle de la population, ont un impact énorme. Les statines, l'aspirine, la metformine, c'est ce genre d'histoire. Ça vaut le coup d'y mettre des moyens sérieux pour trancher.
D'accord sur le principe. Passons au deuxième papier sur le lien muscle-os, sarcopénie et ostéoporose, étude UK Biobank, donc gros échantillon, ça c'est solide.
Le résultat qui m'a intéressé, relation en U entre masse musculaire et ostéoporose. Trop peu de muscles, mauvais. Trop de muscles, mauvais aussi. Les auteurs disent que c'est le surentraînement mal fait.
Prudence sur cette partie. Un U dans une cohorte observationnelle, ça peut refléter beaucoup de choses. Usage de stéroïdes chez les très musclés, biais de sélection, mesure indirecte de la masse musculaire. Je ne prendrai pas trop de muscles nuit à l'os comme conclusion. À ce stade, c'est une association. Ce qui tient mieux, c'est la corrélation génétique. 10 régions sur 12 vont dans le même sens pour les deux pathologies, souvent via l'inflammation, NFQB, les myokines. Ça consolide l'idée que ce sont deux facettes d'un même processus.
Ce qui m'amène directement au quatrième article, celui sur les recommandations de santé publique britannique. L'auteur dit en gros, « Nos guidelines sont calibrés pour éviter les carences, pas pour optimiser la santé. Sur le muscle, faible force musculaire et le 200% de mortalité en plus. Faible capacité cardio, 400%. Le tabac, à côté, c'est 50%. »
Les chiffres bruts sont spectaculaires, mais méfiance sur la causalité. Les gens qui ont une très faible force musculaire ont souvent d'autres pathologies sous-jacentes. La force musculaire est aussi un marqueur, pas seulement une cause. Ceci dit, la direction du message est raisonnable. L'exercice de résistance a un effet réel et sous-communiqué.
C'est exactement là que je voulais en venir. Prenons deux options de politique publique. Option A, on garde les recos actuels, minimum vital, 150 minutes par semaine, apport protéique à 0,34 g par livre. Option B, on recalibre vers l'optimum, on communique sur la musculation, sur un apport protéique plus élevé pour les seniors. Option A ne coûte rien, mais laisse des gains de santé sur la table pour une énorme partie de la population vieillissante. Option B demande de refaire la communication publique. Il y a un risque de surrecommander pour certains profils, mais le bénéfice agrégé, s'il ne serait-ce qu'une fraction des seniors s'y met, dépasse largement.
Je suis d'accord sur la musculation. Sur les protéines, je suis plus prudente. La littérature récente sur 1,2 à 1,6 g par kilogramme pour les personnes âgées est solide, mais l'effet sur mortalité toute cause reste débattu et il faut tenir compte de la fonction rénale. Une reco publique doit être robuste, pas juste optimale en moyenne.
Point valide. On peut faire une reco graduée par âge et condition, mais l'idée générale, arrêter de viser le minimum et viser l'optimum, elle est saine.
Un mot rapide sur le dernier papier, plus exotique. Une proposition d'expérience. Faire pousser des cellules dans un labo souterrain, au Camp Franc en Espagne, pour bloquer les muons cosmiques et voir combien du vieillissement épigénétique vient de cette radiation ambiante.
En lisant le résumé, j'ai souri.
Moi aussi, mais c'est en fait une bonne science. La part stochastique de l'horloge épigénétique va de 2/3 à 9/10 selon la méthode. Personne ne sait combien vient de la radiation cosmique versus des processus internes. Et il y a un résultat contre-intuitif préexistant. Des drosophiles élevés en labo souterrain avaient leur mécanisme de réparation dégradé, pas amélioré. Comme si un fond de bruit était nécessaire pour maintenir le système.
Donc ça peut aller dans les deux sens, et l'expérience est faisable. Le coût est modeste comparé à ce qu'on apprendrait sur la nature même de l'horloge biologique. Je trouve ça bien plus intéressant que beaucoup d'essais cliniques à 100 millions qui testent la Xème variante d'une molécule.
Sur ça, on est aligné. Une expérience proprement conçue, avec une hypothèse falsifiable, dans un domaine où on brasse beaucoup d'assertions non testées. Bref, journée dense côté biologie du vieillissement, entre une piste pharmacologique concrète, un peu de biologie systémique musculo-squelettique et une proposition physique qui décoiffe.
Et un rappel utile. La plus grosse intervention longévité reste probablement d'augmenter la force musculaire et la capacité cardio d'une population vieillissante. Ce n'est pas glamour, mais à l'échelle des gens concernés, c'est là que se joue le plus grand nombre d'années de vie en bonne santé.
On s'en tient là pour aujourd'hui.